Il est impossible de se refuser quelques observations sur les contradictions auxquelles ont donné lieu la rigueur extrême et le fatal relâchement de cette nouvelle foi publique qui a influencé cette opération, et qui l'a influencé non pas d'après la nature de l'obligation, mais d'après les personnes qui y étaient intéressées. Parmi tous les actes de l'ancien gouvernement des rois de France, l'Assemblée nationale ne regarde comme valide que ses engagements pécuniaires, actes dont la légalité était la plus douteuse. Les autres décisions de ce gouvernement royal sont envisagées sous un jour si odieux que c'est presque une espèce de crime que d'avoir à réclamer quelques droits fondés sur leur autorité. Une pension accordée comme une récompense des services rendus à l'État est certainement un aussi bon fondement de propriété que celui des sûretés concédées pour de l'argent avancé à l'État. C'en est une meilleure, car l'on paie, et l'on paie bien pour obtenir ce service. Nous avons cependant vu un grand nombre de personnes que les ministres les plus absolus, dans les temps les plus arbitraires, avaient laissé jouir en paix des grâces de cette nature, dépouillées sans pitié par cette Assemblée des droits de l'homme. Quand elles ont réclamé le pain qu'elles avaient acheté au prix de leur sang, on leur a répondu que leur service n'avait pas été rendu à la nation qui existe aujourd'hui. Cet affaiblissement de la foi publique ne porte pas seulement sur ces infortunés. L'Assemblée nationale, parfaitement conséquente avec elle-même, il faut l'avouer, est engagée dans une délibération respectable pour savoir jusqu'à quel point elle est liée par les traités publics passés avec les nations étrangères sous l'ancien gouvernement. Et ces comités sont chargés de déterminer, dans leurs rapports, quels sont ceux qu'elle doit ou non ratifier. Par ce moyen, ils ont rendu la fidélité extérieure de cet État vierge semblable à celle intérieure. Il n'est pas aisé de concevoir d'après quel principe raisonnable le gouvernement royal n'aurait pas joui plutôt du pouvoir de récompenser les services et de passer les traités en vertu de sa prérogative que de celui d'engager aux créanciers de l'État son revenu actuel et possible. La disposition du trésor public est la moindre de toutes les prérogatives qui aient été accordées au roi de France et à tous les rois de l'Europe. Rien ne suppose d'une manière moins équivoque le droit d'exercer l'autorité souveraine dans sa plénitude sur le trésor que celui d'hypothéquer les revenus publics. Ce droit est bien plus étendu dans ses conséquences que celui d'imposer une taxe momentanée et fixe dans sa durée. Cependant, ces actes d'un pouvoir dangereux, la marque distinctive d'un despotisme sans bornes, sont les seuls que l'on ait regardés comme sacrés. D'où vient cette préférence accordée par une assemblée démocrate à une nature de propriété qui tient son titre de l'usage le plus contesté et le plus nuisible de l'autorité monarchique? La raison ne peut rien fournir pour en excuser l'inconséquence, ni la faveur ne peut l'emporter sur les principes de l'équité. Mais la contradiction et la partialité, qui n'admettent point de justification, n'en ont pas moins une cause équivalente, et je crois que cette cause n'est pas difficile à découvrir. La dette énorme de la France, en s'accroissant insensiblement, avait accru aussi l'intérêt de l'argent, et avec lui avait fait naître un grand pouvoir. D'après les anciens usages de ce royaume, la circulation générale de la propriété, et en particulier l'échange réciproque des terres contre l'argent et de l'argent contre les terres, avait toujours été sujet à de grandes difficultés. Les substitutions dans les familles étaient plus générales et plus strictes qu'elles ne le sont en Angleterre. Le droit de retrait, l'étendue des domaines de la couronne, inaliénable pour une maxime de droit français, les grandes propriétés du clergé, toutes ces choses rendaient en France les propriétaires fonciers presque étrangers aux capitalistes, moins propres à se mélanger ensemble et moins bien disposés en faveur l'un de l'autre qu'ils ne le sont dans notre pays. Le peuple a regardé longtemps d'un mauvais œil les capitalistes. La nature de leur propriété lui semblait avoir un rapport plus immédiat avec sa détresse et l'aggraver encore. Ce genre de propriété n'était pas moins décrié par les très anciens propriétaires de terres, en partie pour la raison ci-dessus, mais bien plus encore parce qu'il éclipsait, par le faste d'un luxe plein d'ostentation, les généalogies toutes sèches et les titres tout nus d'un grand nombre de nobles. Même lorsque la noblesse, qui représentait le corps des propriétaires fonciers les plus permanents, s'unissait par des mariages, ce qui arrivait quelquefois avec l'autre classe de propriétaires, à peine faisait-on grâce d'un certain mépris à cette source de richesse, en faveur du service qu'elle rendait à des familles dont elles empêchaient la ruine. Ainsi, les animosités et les inimitiés de ces deux parties s'augmentaient même par les moyens ordinaires qui terminent toutes les discordes et qui apaisent toutes les querelles dans le sein de l'amitié. En même temps, la fierté des hommes à argent, non nobles ou nouvellement anoblis, s'augmentait par la même raison et s'accroissait avec sa cause. Cette classe d'hommes ne supportait qu'avec ressentiment une infériorité dont elle ne reconnaissait pas les fondements. Il n'y avait pas de mesure auxquelles elle ne fût disposée à se prêter pour se venger des outrages qu'elle avait reçus d'une fierté rivale et pour placer les richesses au degré d'élévation qu'elle lui assignait comme lui appartenant naturellement. C'est cette classe d'hommes qui a frappé sur la noblesse en attaquant la couronne et l'Église. Elle a porté particulièrement ses coups aux endroits où les blessures devaient être les plus mortelles, c'est-à-dire en s'adressant aux propriétés de l'Église, qui, au moyen du patronage du roi, étaient communément accordées à la noblesse. Les évêchés et les grandes abbayes commendataires étaient, à bien peu d'exceptions près, occupés par des personnes de cet ordre. Dans cet état subsistant d'une guerre réelle, quoiqu'elle ne fût pas toujours apparente, entre l'ancien propriétaire foncier et le nouveau capitaliste, la force prépondérante était en faveur du dernier. Les capitaux sont en effet plutôt disponibles pour tous les événements et leurs propriétaires plus disposés aux nouvelles entreprises de toute espèce. Comme l'acquisition en est récente, ils s'accordent plus naturellement avec toutes les nouveautés. C'est par conséquent l'espèce de richesse qui convient à ceux qui souhaitent des changements. D'un autre côté, s'était élevée, aussi dans le même temps, une nouvelle classe d'hommes qui ne tarda pas à former avec les capitalistes une coalition intime et remarquable. Je veux parler des hommes de lettres politiques. Les écrivains, presque toujours préoccupés du besoin de primer, sont rarement ennemis des innovations. Depuis le déclin de la vie et de la grandeur de Louis XIV, ils avaient cessé d'être aussi recherchés, soit par lui-même, soit par le régent, soit par leurs successeurs à la couronne. Ils n'étaient plus attirés à la cour par les mêmes faveurs et les mêmes largesses que pendant la brillante période de ce règne politique et plein de dignité. Ils tâchèrent de se dédommager de ce qu'ils avaient perdu dans la protection de l'ancienne cour en se réunissant pour former entre eux une association puissante. L'union des deux académies de France et ensuite la vaste entreprise de l'encyclopédie dirigée par ces messieurs ne contribuèrent pas peu au succès de leur projet. La cabale littéraire avait formé, il y a quelques années, un plan régulier pour la destruction de la religion chrétienne. Ils poursuivaient leur but avec un zèle qui jusqu'alors ne s'était montré que dans les propagateurs de quelques systèmes religieux. Ils étaient possédés, jusqu'au degré le plus fanatique, de l'esprit de prosélytisme et par une progression facile d'un esprit de persécution conforme à leur vue. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire directement et tout d'un coup pour arriver à leur fin, ils le tramaient par des procédés plus lents et en travaillant sourdement. Pour lui commander, le premier pas nécessaire est de s'arroger un empire sur ceux qui la dirigent. Leur principal soin fut de s'emparer avec méthode et persévérance de toutes les avenues qui conduisent à la gloire littéraire. Beaucoup d'entre eux, assurément, ont occupé un rang très élevé dans la littérature et dans les sciences. Le monde entier leur a rendu justice et en faveur de leurs principes particuliers. C'était générosité pure. Ils y ont répondu en faisant tous leurs efforts pour accaparer entre eux seuls et leurs adeptes une réputation exclusive d'esprit, de savoir et de goût. J'oserais dire même que cet esprit exclusif et circonscrit n'a pas été moins préjudiciable à la littérature et au goût qu'à la morale et à la véritable philosophie. Ces athées ont une bigoterie qui leur est particulière, et ils ont appris à déclamer contre les moines avec toute l'ardeur des moines. Mais en plusieurs choses, ils sont encore hommes du monde. Les ressources de l'intrigue sont mises en jeu pour suppléer aux défauts du raisonnement et de l'esprit. À ce système de monopole littéraire était jointe une industrie cruelle pour noircir et pour décréditer de toutes les manières et par toutes sortes de moyens tous ceux qui ne tenaient pas à leur parti. Il était évident depuis longtemps aux yeux de ceux qui avaient observé l'ardeur de leur conduite que le pouvoir seul leur manquait pour transformer l'intolérance de leur langage et de leurs écrits en des persécutions qui frapperaient les propriétés, la liberté et la vie. Les persécutions faibles et passagères qui ont eu lieu contre eux, plutôt pour la forme et pour la décence, que par l'effet d'un ressentiment sérieux, n'ont ni diminué leurs forces, ni ralenti leurs efforts. Tout ce qui en est résulté, c'est que cette opposition et leur succès ont fait naître un zèle violent et atroce d'une espèce inconnue jusqu'ici dans le monde. Que ce zèle qui s'était emparé de leurs esprits rendit toute leur conversation tout à fait dégoûtante, d'agréable et instructive qu'elles auraient pu être. Un esprit de cabale, d'intrigue et de prosélytisme dominait dans toutes leurs pensées, dans leurs moindres paroles, dans leurs moindres actions. Et comme le zèle de la controverse tourne bientôt les idées vers la force, ils commencèrent à s'introduire près des princes étrangers, en établissant des correspondances avec eux. Ils espéraient que, par le moyen de l'autorité des souverains, qu'ils flattèrent d'abord, ils pourraient venir à bout de produire les changements qu'ils avaient en vue. Il était indifférent pour eux que ces changements fussent opérés par la foudre du despotisme ou par le tremblement de terre d'une commotion populaire. La correspondance que cette cabale a entretenue avec le feu roi de Prusse ne répandra pas une faible lumière sur la violence de leurs procédés. Dans le même dessein qui les faisait intriguer avec les princes, ils cultivaient d'une manière distinguée les capitalistes de la France. Et enfin, mettant à profit les dispositions de quelques personnes qui, par leur charge particulière, avaient les moyens les plus certains et les plus étendus de répandre leurs idées, ils s'emparèrent avec grand soin de toutes les avenues de l'opinion. Les écrivains, surtout lorsqu'ils agissent en corps et dans une seule et même direction, obtiennent une grande influence sur l'esprit public. C'est pourquoi l'alliance de ces écrivains avec les capitalistes a produit un effet sensible en affaiblissant la haine et l'envie du peuple contre cette espèce de richesse. Ces écrivains, de même que tous ceux qui propagent des nouveautés, affectèrent un grand zèle pour le pauvre et pour la classe la plus basse de la société. En même temps que dans leur satire, ils attiraient, à force d'exagération, la haine la plus forte sur les fautes des cours, de la noblesse et du clergé. Ils devinrent des démagogues d'une singulière espèce. Ils servirent comme de chaînons pour joindre les dispositions hostiles contre la richesse au désespoir turbulent de la pauvreté. Comme ces deux espèces d'hommes paraissent être les principaux guides de toutes les dernières opérations, leur union et leur politique serviront à expliquer la fureur universelle avec laquelle on a attaqué les propriétés territoriales et tous les établissements ecclésiastiques. Et d'un autre côté, le soin extrême, en opposition à leur prétendu principe, que l'on a pris des capitaux provenant de la couronne. L'envie contre la richesse et le pouvoir a été détournée adroitement et dirigée vers les autres natures de richesse. Les principes que je viens d'établir pourraient seuls servir à expliquer ce choix si extraordinaire et si peu naturel que l'on a fait des biens ecclésiastiques pour les employer au paiement de la dette publique. De ces propriétés qui avaient survécu pendant des siècles aux agitations et aux violences civiles, tandis que cette dette ne pouvait être considérée que comme l'ouvrage récent et odieux d'un gouvernement décrié et en désordre. Le revenu public était-il un gage suffisant pour la dette publique? Supposez qu'il ne le fût pas et qu'il dût nécessairement y avoir une perte quelque part. Lorsque le seul revenu existant légalement, le seul que les parties contractantes eussent en vue au moment où elles ont fait leur marché, vint à manquer, qui devait en souffrir d'après les principes de la loi et même de l'équité naturelle? Certainement, cela devait être ou le prêteur, ou celui qui avait engagé à prêter, ou tous les deux, et non pas un tiers qui n'avait pris aucune part au traité. En cas d'insolvabilité, la perte devait tomber ou sur celui qui avait été assez faible pour prêter sur une mauvaise hypothèque, ou sur celui qui, frauduleusement, en avait offert une sans valeur. Les lois ne connaissent pas d'autres règles de décision. Mais, d'après le nouvel Institut des droits de l'homme, les seules personnes qui, selon l'équité, devaient supporter la perte sont les seules qui se retireront sans avoir rien perdu. et ceux-là paieront la dette qui n'étaient ni les prêteurs ni les emprunteurs et qui n'avaient reçu ni donné aucune hypothèque. Qu'avait à faire le clergé dans toutes ces opérations? Qu'avait-il de commun avec aucun engagement public au-delà de l'étendue de sa propre dette? Quant à celle-ci, certainement, ses terres étaient engagées jusqu'au dernier arpent. Rien ne peut mieux mettre sur la trace du véritable esprit de l'Assemblée qui siège pour exercer des confiscations publiques d'après sa nouvelle équité et sa nouvelle morale que de donner un peu d'attention à la conduite qu'elle a tenue à l'égard de cette dette du clergé. Le corps des confiscateurs, fidèles aux capitalistes pour lesquels il était infidèle à tous les autres, trouva le clergé compétent pour contracter légalement une dette. Conséquemment, c'était reconnaître en lui la possession pleine et légale des biens qu'il n'aurait pas eu le pouvoir d'engager et d'hypothéquer s'il n'eût pas été réellement propriétaire. Ainsi, dans ce même acte qui dépouille ces malheureux citoyens, on consacre la foi et la légitimité de leurs droits et la violation impudente que l'on en fait. Si, comme je l'ai dit, quelques personnes devaient répondre du déficit aux créanciers de l'État, ce devait être celles par les mains desquelles avait passé la transaction de ses créances. Dès lors, pourquoi n'a-t-on pas confisqué tous les biens de tous les contrôleurs généraux? Pourquoi n'a-t-on pas confisqué ceux de cette longue succession de ministres, de financiers et de banquiers qui se sont enrichis pendant que la nation se ruinait par leurs manœuvres et par leurs conseils? Pourquoi les biens de M. de Laborde n'ont-ils pas été confisqués plutôt que ceux de l'archevêque de Paris, qui n'avait rien eu de commun dans la création ni l'agiotage des fonds publics? Ou, s'il vous fallait absolument confisquer d'anciennes propriétés territoriales en faveur de ceux qui font commerce d'argent, pourquoi avez-vous fait porter ce châtiment sur une seule classe d'hommes? Je ne sais pas si, d'après le goût excessif qu'avait le duc de Choiseul pour les dépenses, il aurait laissé après lui quelque chose, des sommes énormes qu'il avait obtenues des bontés de son maître, durant le court règne qui, par ses prodigalités en tout genre, pendant la guerre et pendant la paix, a amplement contribué à la dette actuelle de la France. S'il en existe des restes, pourquoi ne sont-ils pas confisqués? J'ai été à Paris du temps de l'ancien gouvernement. Je me rappelle que c'était immédiatement après l'époque où le duc d'Aiguillon venait de sauver sa tête de l'échafaud par le secours de la main protectrice du despotisme. Du moins tout le monde le pensait ainsi. Il a été ministre, et il a été pour quelque chose dans toutes les affaires de ces temps de prodigalité. Pourquoi ne vois-je pas ces possessions territoriales abandonnées aux municipalités dans lesquelles elles sont situées? La famille illustre de Noailles, qui a longtemps servi, et servi avec honneur, la couronne de France, a eu aussi une certaine part à ses bontés. Pourquoi n'entends-je pas parler d'aucune application de ces biens à la réduction de la dette publique? Pourquoi les biens du duc de La Rochefoucauld sont-ils plus sacrés que ceux du cardinal de La Rochefoucauld? Le premier, je n'en doute pas, est une personne respectable, et si ce n'était pas une sorte d'impiété de parler de l'emploi que l'on fait des richesses, comme s'il pouvait influer sur le titre de leur possession, il fait un bon usage de ses revenus. Mais j'espère que, sans lui manquer d'égard, je peux répéter ce qui m'a été garanti par des personnes très bien informées. Elles m'ont dit que son neveu, l'archevêque de Rouen, disposait d'une manière beaucoup plus louable et bien plus conforme au bien général du produit d'une propriété également légitime. Peut-on, sans horreur et sans indignation, entendre parler de la proscription de telles personnes et de la confiscation de leurs biens? Il faut n'être pas homme pour ne pas éprouver ses émotions dans de telles occurrences, et ce serait être indigne du titre d'homme libre que de ne pas les exprimer. Peu de conquérants barbares ont fait une révolution aussi terrible dans les propriétés. Aucune des factions romaines, lorsqu'elles établissaient « crudelem illam hastam », cette cruelle vente à l'encan dans laquelle on mettait à l'enchère le butin fait à l'ennemi, n'a jamais porté la vente des biens des citoyens conquis à un taux si considérable. On doit dire en faveur de ces tyrans de l'Antiquité que tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait de sang-froid. Leur passion était allumée, leur caractère était aigri, leur esprit bouleversé par l'ardeur de la vengeance et par toutes les représailles innombrables et réciproques de meurtres et de rapines. Ils étaient entraînés au-delà des bornes de la modération, dans la crainte où ils étaient que les familles, qu'ils avaient trop outragées pour en espérer aucun pardon, en rentrant dans la possession de leurs biens, ne reprissent en même temps leur pouvoir. Ces Romains, amis des confiscations, qui n'étaient encore qu'aux éléments de la tyrannie, à qui les droits de l'homme n'avaient pas enseigné à exercer toutes sortes de cruautés sur les uns et sur les autres, sans y être nullement provoqués, crurent cependant nécessaire de donner une sorte de couleur à toutes leurs injustices. Ils regardèrent les vaincus comme des traîtres qui avaient porté les armes, ou qui avaient agi d'une manière quelconque dans un esprit hostile contre la République. Ils les traitèrent comme des gens qui avaient encouru par leurs crimes la confiscation de leurs biens. Quant à vous, au point de perfection de l'esprit humain dont vous jouissez, vous n'avez pas mis tant de formalités. Vous avez fait main basse sur 5 millions sterling de revenus annuels et chassé de leur maison 40 ou 50 000 créatures humaines parce que tel était votre bon plaisir. Le tyran de l'Angleterre, Henri VIII, qui n'était pas plus éclairé que ne l'étaient Aram, les Marius et les Sylla, et qui n'avait pas étudié dans vos nouvelles écoles, Henri VIII ignorait quel instrument efficace de despotisme était disponible dans le grand arsenal des armes offensives, les droits de l'homme. Lorsqu'il eut résolu de piller les abbayes, comme le club des Jacobins a pillé tous les biens ecclésiastiques, il commença par établir une commission pour entrer dans l'examen des crimes et des abus qui régnaient dans ces communautés. Sa commission, comme on pouvait s'y attendre, mit dans son rapport des vérités, des exagérations et des mensonges, mais faussement ou d'après la vérité, elle rendit un compte des abus et des crimes. Cependant, quoique les abus pussent être corrigés, quoique les crimes de quelques individus ne dussent pas entraîner la forfaiture d'une communauté entière, et comme dans ce siècle de ténèbres, on n'avait pas encore découvert que la propriété n'était que le fruit d'un préjugé, tous ces abus, et il y en avait un assez grand nombre, ne furent pas regardés comme un fondement suffisant pour prononcer la confiscation, qui était le but où l'on voulait arriver. En conséquence, Henri trouva un moyen de se procurer l'abandon formel de tous ses biens. Ces manœuvres pénibles furent employées par un des tyrans les plus décidés dont l'histoire ait jamais fait mention, comme des préliminaires nécessaires avant qu'il pût risquer, en corrompant les membres de ses deux chambres serviles, par l'espérance d'une part dans les dépouilles et par la promesse d'une exemption éternelle de taxes, de demander une confirmation de ses procédés iniques par un acte du Parlement. Si le hasard eût réservé ce tyran pour nos jours, 4 mots techniques auraient fait toute l'affaire et lui auraient épargné cet embarras. Il n'aurait eu besoin d'autre chose que d'une courte formule d'enchantement, philosophie, lumière, liberté, droit de l'homme. Je ne puis rien dire à la louange de ces actes de tyrannie que jusqu'ici aucune voix n'a loué sous aucune de leurs fausses couleurs. Cependant, sous ces fausses couleurs, un hommage était rendu à la justice par le despotisme. Le pouvoir, qui était au-dessus de toute crainte et de tout remords, n'était pas au-dessus de toute honte. Tant que la honte fait sentinelle, la vertu n'est pas entièrement éteinte dans le cœur des tyrans, ni la modération entièrement bannie de leur âme. Je crois que tout homme honnête sympathisera avec notre poète politique en cette occasion et le priera d'écarter le présage chaque fois que ces actes d'un despotisme avide se présenteront à sa vue ou à son imagination. Puisse ne pas tomber sur notre siècle une pareille tempête où la réforme s'opère par la ruine. Muse, dis-moi pour quelle monstrueuse et cruelle offense, pour quel crime un roi chrétien a pu se porter à un tel excès de rage? Était-ce le luxe ou la débauche? Était-il donc lui-même si sobre, si chaste, si juste? Était-ce là leur crime? Ils étaient bien plus les siens. Mais la richesse est un crime suffisant aux yeux de celui qui n'a rien. Cooper's Hill, by Sir John Denham.